Rencontre avec Christian Marclay par Jean-Philippe Renaud.
J'ai commencé à faire de la musique en 79, lorsque j'étais étudiant d'art à Boston, au Massachusetts College of Art. J'ai quitté Genève, où j'ai grandi. Je suis de double nationalité, américain et suisse. Et c'est grâce à mon intérêt pour les arts visuels que j'en suis arrivé à faire de la musique. Et en particulier, grâce à mon intérêt pour la performance et une grande admiration à cette époque-là pour le punk, le mouvement punk. Alors pour moi, ça c'était une grande libération, le punk. Ça m'a permis de faire la musique sans avoir jamais étudié la musique. Cette attitude de « do it yourself » m'a vraiment donné une grande liberté. Et je me suis... entre ces deux influences... le punk et la performance d'art, qui à cette époque pour moi étaient très liés. Il y avait aussi bien les artistes comme Vito Acconci qui travaillaient sur le corps, et les Sex Pistols qui aussi avaient une attitude envers le corps qui était très agressive, très destructive, et qui remettait beaucoup de choses en question. Et pour moi, tout ce milieu-là était vraiment très révélateur.
Au même moment, en 1979, quand vous commencez, c'est aussi l'essor du hip-hop comme culture et l'essor des pratiques de DJing. Vous vous sentiez proche à ce moment-là de ce qui se faisait dans le Bronx, avec là aussi des DJ, en l'occurrence, qui manipulaient tourne-disque et vinyle.
Non, absolument. J'étais absolument pas au courant de ce mouvement-là. Et je pense que la plupart des gens ne l'étaient pas. J'ai découvert le hip-hop avec Grandmaster Flash en 1980, ou même 81. Mais lorsque j'étais étudiant d'art à Boston, le hip-hop, ça n'existait pas dans la culture blanche, dans les milieux d'art, personne n'était au courant. C'est seulement plus tard... que j'ai découvert ce milieu-là, mais pour moi les influences venaient plus de John Cage, la musique concrète, et puis c'était simplement une façon pour moi de trouver des sons, de créer des sons avec quelque chose de simple et disponible qui était là. Sans savoir jouer d'un instrument, j'avais à ma disposition des milliers de disques, et ce qui m'avait surpris justement aux États-Unis, c'était de voir ces thrift stores qui étaient pleins de disques à 25 cents dont personne ne voulait, alors qu'en Suisse, j'ai grandi dans un milieu où on respectait ces objets disques comme des livres, c'était sacré, et il n'y avait pas ce overflow, cette consommation d'enregistrement. Et pour moi, c'était vraiment une façon de faire de la musique d'une manière simple. Et même, je dis musique, mais à l'époque, je ne pensais même pas à musique. C'était pour moi une façon de faire de la performance d'art. Au départ, c'était un accompagnement musical pour des performances qui étaient souvent accompagnées de projections de diapositives, de films sonores en boucle. Alors je faisais tourner en boucle des disques, mais aussi je faisais tourner en boucle des films 16 mm, et je créais des rythmes qui étaient alors à ce moment-là aussi visuels que sonores. Pour moi, c'était important de montrer le processus. Alors par exemple, j'utilisais des films, des cartoons, des bandes dessinées, des animations. Et ces loops de films devenaient des bandes-sons, des accompagnements. J'ai commencé un groupe qui s'appelait The Bachelors Even. les célibataires même, un petit hommage à Duchamp. Et j'en suis venu à vouloir aussi montrer, parce qu'au départ, l'utilisation des disques, c'était quelque chose que je faisais, c'était une préparation. Je créais des cassettes avec des loops, et pour chaque chanson, j'avais une cassette que je mettais. Donc, et mon collègue est un guitariste. Et donc, vraiment, c'était plus l'idée de faire la performance que de faire la musique. C'est un peu parti d'un désir de faire un film. J'avais très envie de faire une comédie musicale, parce que je trouvais que c'était un genre tellement étrange, et quelque part que j'aimais bien. Et j'ai donc écrit des chansons, et j'ai demandé à mon collègue, ce guitariste, c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'il était étudiant dans la même école, et je lui ai demandé, est-ce que tu peux écrire de la musique sur ces textes? Et puis, bon, il a essayé. Ensuite, il a dit, mais il faut qu'on trouve un chanteur. Et il m'a dit, mais pourquoi toi, tu ne chantes pas? Alors, en fait, j'ai commencé par chanter.
Christian Marclay, les débuts que vous évoquez, et pendant de nombreuses années, vous accompagnez beaucoup de musiciens, et on vous retrouve mélangé au cœur de différentes avant-gardes new-yorkaises. Alors John Zorn en tête, qui lui-même représente peut-être une galaxie où beaucoup de musiciens et d'avant-garde se sont exprimés. Et puis, à un moment, le turntablist devient photogénique. On le regarde pour lui-même, finalement.
Pour moi, l'aspect visuel a toujours été très important, donc... Avec ses premières performances, pour moi, d'amener le disque sur scène et de montrer le processus. Surtout qu'il faut se remettre à cette époque où, bon, il n'y avait pas de CD, il y avait le support principal pour la musique, c'était le disque. Et justement, on avait un rapport qui était très... on respectait cet objet, on devait le manipuler avec soin, le tenir par les bords, ne pas mettre... d'enlever la poussière, de vraiment... Donc, avec ce support dont on avait l'habitude de traiter avec attention, tout à coup, moi, j'ai eu une approche très destructive. Et de montrer cette façon de faire avait un impact sur le public. Donc, c'était un geste qui attaquait ce support qui a rendu la musique, le son... qui en a fait une commodité, qui en a fait un objet à vendre.
Pour rebondir sur la question du support, vous n'hésitez pas à le détériorer, mais il peut muter aussi dans vos doigts. Et je voudrais qu'on évoque peut-être, Christian Marclay, les supports transformés, qui sont en fait des collages de plusieurs disques qui vont finir par en constituer un seul. Mm-hmm.
Oui, alors ce côté agressif, j'ai voulu en faire quelque chose de très positif, c'est-à-dire en détruisant l'objet du disque, d'en faire des sons nouveaux et d'en faire une musique nouvelle. Donc si je découpe les disques et que je les recolle des tranches de disques différents pour en faire un nouvel ensemble, tout à coup les coupures entre ces différents morceaux de pause musicale devient un son. Une rayure sur un disque, c'est l'anathème de l'audiophile. Pour moi, c'est un son comme un autre. Il a autant de valeur que le son gravé dans le sillon. Quelque part, il a presque plus de valeur parce que cette éraflure, cette blessure sur le disque va rendre audible sa matérialité, le fait que le disque, c'est pas seulement du son dans l'abstrait, c'est un objet. Et cette rayure va révéler l'objet.
les audiophiles, je pense que tout le monde qui écoute un disque, finalement, il oublie le médium. Le support est le médium, mais on a presque envie d'ignorer, que ce soit d'ailleurs un CD ou un vinyle, qu'effectivement le son passe par là. Et vous, vous faites finalement du médium, vous en faites une lutherie.
Oui. Non, j'ignore pas le médium. Le médium, pour moi, c'est... On peut faire toutes sortes de sons, même acoustiquement, on peut utiliser le disque. J'ai fait des performances et une vidéo, justement, où il n'y a pas de tourne-disque, il n'y a pas de pick-up, rien. C'est simplement l'utilisation de disques comme des objets acoustiques. Alors, je les gratte avec les ongles, je les casse, je fais toutes sortes de sons qui sont purement acoustiques et qui n'ont pas besoin d'un tourne-disque. Donc, j'ignore tout à fait ce qui est enregistré sur le support et je traite de l'objet seulement.
Quel est le nom de cette performance ?
Alors, il y a une vidéo qui s'appelle Record Players. Alors, c'est un ensemble, une quinzaine de personnes qui utilisent ces disques en groupe, en ensemble, que je dirige. C'est très percussif. Et je l'ai fait plusieurs fois en live. Et à la fin de la performance, il y a des débris de disques au sol sur lesquels on marche pour faire encore un dernier son.
Thank you.